Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Ce soir, programme light, cette semaine de Foire du Valais, nous vous parlerons premièrement de l'association Saint-Maurice d'Agone qui présentera ce dimanche 8 octobre un diaporama sur l'histoire du carnaval agonois à l'Aula de la Tuilerie et nous recevrons Yasmina Cordonnier de la librairie Saint-Augustin qui nous présentera deux nouveaux ouvrages pour la rentrée automnale de Miroir de Page, notre chronique littéraire. Nous sommes le jeudi 5 octobre 2023 et comme chaque semaine, nous sommes ensemble pour une heure sur Agone Radio.
Bonjour, bonjour Victor, merci pour cette introduction, merci Pierre-Yves qui est aux manettes et surtout bonjour à nos deux invités. On reçoit aujourd'hui dans les studios d'Agone Radio Jean-Pierre Couta et Jean-Paul Duroux pour nous parler justement de cet événement dimanche, un diaporama. On est encore dans l'été indien, il fait chaud, il fait beau, mais on va parler de carnaval. Jean-Pierre Couta, vous êtes celui qui avait fabriqué ce diaporama et cette plaquette qui va avec. Déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ce nouveau numéro dédié au carnaval de Saint-Maurice, puisqu'il y en a eu un premier, c'est bien juste?
Alors, effectivement, il y a eu une première partie, au mois d'avril, ce printemps, où on a tenté de faire la synthèse du carnaval de Saint-Maurice, de ses origines, jusque dans les années 80. C'était essentiellement des documents noir-blanc que j'avais trouvés soit dans les archives de l'association du Vieux Saint-Maurice, soit que M. André Bergrand avait jalousement gardé dans ses dossiers. Et puis, mais cela a appelait une deuxième partie, parce que 100 ans de carnaval, il faut d'abord dire une chose, c'est que sans vouloir entrer dans une polémique quelle qu'elle soit, le carnaval de Montais est plus ancien. Le carnaval de Montais est plus important. Il draine des gens qui viennent d'ailleurs, et il y a une foule, il y a des chars qui sont prodigieux. Saint-Maurice est beaucoup plus intime. C'est un carnaval d'une petite ville où les gens font les gueux entre eux, s'amusent comme des petits fous, vont boire des verres dans les bistrots. Il y a quelque chose de plus villageois. Alors, quand j'ai eu la chance, la joie, de fréquenter Pierre-Benoît Veutet ou Pierre-André Antamaten, et que j'ai vu les photos qu'ils avaient sur les fantaisies qu'ils avaient produites à Carnaval, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire profiter les gens? Parce que quand on parle de l'association Saint-Maurice d'Agone, avant ça s'appelait le Vieux Saint-Maurice, c'est vrai que ça faisait vachement ringard. Et de surcroît, peut-être que les gens, mais il faut voir la moyenne d'âge, en avaient un peu marre que je traite toujours des sujets historiques, anciens, des vieux bâtiments, des choses. Je me suis dit, mais c'est l'occasion rêvée, non pas d'attirer les jeunes, parce qu'il ne faut pas rêver, mais c'est l'occasion rêvée de faire rire. Pour une fois que notre association pourrait détendre l'atmosphère et que les gens pourraient s'y retrouver, voir leurs enfants, leurs petits-enfants ou eux-mêmes. Alors voilà comment est née tout simplement cette deuxième partie du carnaval.
Et puis concrètement, alors vous avez été voir les gueux qui font la fête entre eux, vous allez sonner à leur porte. Il n'y avait que Pierre-André Antamaten et Pierre-Benoît Veutet ou bien ça a été ratissé plus large?
Non, mais lors de la première partie en avril, on a lancé un appel au public pour leur dire que ceux et celles qui avaient des photographies du carnaval à présenter s'adressent à Jean-Pierre pour la deuxième partie. Alors, je ne sais pas si ça a donné lieu à beaucoup de transferts, mais en fait, il y a en tout cas eu un contact avec le responsable de la classe 62 et Pierre-André Intermaten.
Il y a aussi un carnavaleux qui est magnifique, c'est Robbie Hickler. Qui alors lui a fait des trouvailles et des chars à carnaval et qui m'a prêté des albums complets dans lesquels j'ai piqué quelques images parce qu'il faut veiller aussi à ne pas lasser le public et puis que ce soit pas trop personnel, intimiste. Parce que c'est clair qu'à carnaval, tout le monde fait les gueux, boit les verres, se grime, se mâchure, fait les trucs, mais ça fait pas rire tout le monde. Il faut trouver l'alchimie qui fait que tout le monde peut rire et se sentir concerné par la chose.
Alors justement, cette alchimie, elle passe par quoi ? C'est quoi la recette pour faire rire tout le monde ? Quels sont les ingrédients du carnaval à Gonois, finalement, qui font mouche ?
Alors, de par l'expérience que j'ai en fréquentant mes deux alcooliques, eh bien, d'abord, c'est la qualité des images. Parce que les gens font... Tout le monde fait des photos à carnaval, mais toutes les photos ne sont pas géniales. Il y en a qui sont floues, qui sont mal cadrées ou qui ne sont pas. Donc, c'est la qualité du document. Et puis, il y a aussi une dimension émotionnelle que j'ai du plaisir à essayer de faire passer. Ce n'est pas du tout que je sois, axé sur le passé, mais tous ces gens qui nous ont précédés, qui s'en sont allés, qui étaient jeunes, de les voir riant, souriant à carnaval, ça fait un bien fou. Alors, si j'arrive, je ne sais pas, à faire à la fois rire et émouvoir le public et la famille des gens qui s'en sont allés, je crois qu'on aura passé une petite heure très agréable et sympathique.
Justement, qu'est-ce qu'on va trouver, puisque là, on est depuis les années 80, donc finalement, ce n'est pas si loin que ça. C'est
oui, pour nous,
pas trop. Et qu'est-ce qu'on va trouver de particulier dans ce deuxième volet ? Qu'est-ce qui fait le sel du carnaval de Saint-Maurice ? Est-ce que c'est beaucoup l'actu ? Est-ce que c'est...
C'est la simplicité des moyens et l'originalité des idées. Parce que quand je vois ce que fait Pierre-André Antamaten et son frère Bernard, ils ont fait des trucs, mais à se rouler par terre. Quand ils ont fait Madame, celle qui s'occupait de Miss France, Madame de Fontenay, que Pierre-André, avec un brin de rouge à lèvres, mais trois fois rien, un chapeau, il a des jambes de gonzesse, ben c'est pas de sa faute, mais enfin, ça fait bander tous les mecs. Enfin, bon, je dis pas ça sur l'écran, mais c'est vrai qu'avec trois fois rien, ils arrivent à sortir des trucs originaux. Quand il y en a un, c'est des caméléons entre Bernard Antamaten, Bernard Mottier et Pierre-André Antamaten, avec très peu de moyens, ils arrivent à se métamorphoser en Berlusconi, en Kadhafi, en Micheline Camiret. Ils arrivent à... En pape aussi. C'est époustouflant de voir qu'avec si peu de moyens, mais tout en étant très respectueux. Par exemple, j'ai relevé la chose, quand Mottier fait le pape, on ne sait pas lequel, mais il ressemble presque à François, quand Pierre-André Antamaten et son frère jouent les évêques, ils n'ont aucun signe religieux sur la soutane. Ils savent rester au niveau du costume, mais ce n'est pas un plagiat des autorités ecclésiastiques. Et c'est ça que je trouve fin, c'est subtil, original, des fois très local ou simplement fédéral, parce que tous les thèmes sont accessibles. Alors maintenant, Pierre-André, il fume du cockpit parce qu'il est en train de se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ?» Il m'a dit « C'est vrai que j'ai la gueule de Gandhi, parce que ça fait 100 ans qu'il est mort. Mais fera-t-il Gandhi ?» Il m'a dit « Mais merde, après tout, au mois de février, tu me vois avec un linge blanc au travers des épaules et puis le crâne rasé, déambuler dans la grande rue avec une chèvre, c'est pas évident non plus. Donc, il faut aussi tenir compte des conditions climatiques. » Voilà, bon.
Conditions climatiques, il y en avait des fois un peu extrêmes. Vous avez évoqué tout à l'heure Pierre-Benoît Vautet, qui fait partie de la fameuse classe
62,
la 62, la bien nommée.
Oui.
Eux aussi, alors c'est carrément, ils ne sont pas trois, ils sont une clique. Hein.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à leur propos ?
Eh bien, que ça me fait éminemment plaisir de voir des jeunes, donc ils sont nés en 62, de voir des jeunes qui insuffle un tel dynamisme à carnaval. Ça, je dis, ça me fait plaisir parce que quand on prend de l'âge, on a tendance à idéaliser ce qu'ont fait nos aïeux et à se fossiliser dans des images noir-blanc avec des thèmes récurrents, avec des luttes de catholiques, conservateurs, radicaux, le bal des radicaux, le bal des conservateurs, etc. Puis ces jeunes arrivent avec un souffle nouveau, des idées loufdingues, audacieuses, et puis hilarantes. Voilà.
hilarante, les jeunes de la 62, on retient tout ça. Ils oui. seront contents, je crois, on va faire des heureux ce soir, les jeunes de la 62. Il y a aussi des jeunes, peut-être un peu plus jeunes encore, qui notamment gagnent souvent les concours de char, me semble-t-il, parmi la jeunesse à gaunoise. Donc finalement, le carnaval de Saint-Maurice est intimiste, mais il est aussi des fois assez grandiose par les constructions qui voyagent dans la Grand Rue.
Ah ben, l'équipe... En fait, on n'a pas abordé les chars. Hein. Mm-hmm. C'est des personnages ou des groupes, enfin des individus, voire la fanfare, mais pas de chars. Mm-hmm. Parce que c'est trop compliqué à rassembler des photographies sur les chars. Puis durant une période, les chars n'étaient pas très élaborés. Après, ça s'est amélioré. Mais en fait, on a décidé de ne pas présenter des chars.
Les tout premiers, c'est dans les années. Non, mais bon. Les tout premiers, je crois que c'est dans les années 49, à peu près, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais Saint-Maurice n'avait pas beaucoup d'argent, n'avait pas des équipes soudées pour créer, comme à Montais, des chars majestueux. Il faut du fric, il faut de la bonne volonté, du talent. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas ça à Saint-Maurice. Mais il n'y avait pas les locaux. Moi, je me souviens que dans la halle.
Dans la rotonde,
il y a eu à une certaine époque des jeunes qui fabriquaient des chars, des gars de Lavet, je crois, avec un truc qui tournait, des toboggans. Et puis maintenant, vous avez les Rocans qui viennent et qui présentent des trucs, mais c'est fantastique.
Très bruyant.
C'est très bruyant. Alors la question que je me pose, parce que c'est une réaction peut-être de personnes âgées, je me dis, est-ce que c'est encore le carnaval à Gaunois ? Est-ce que c'est encore... Le côté intimiste, c'est superbe ce qu'ils font, c'est un travail extraordinaire, mais je me sens personnellement moins proche de cette mise en scène.
D'accord, bon, on, pour l'instant la Grande Rue n'a pas été élargie, donc on ne pourra pas élargir plus que tant le carnaval. Merci beaucoup, on va revenir dans un petit instant pour parler de l'association, cette fois-ci Saint-Maurice d'Agaune, qui... à organiser et met en place cet événement de dimanche. Donc, à tout de suite, dans un petit instant, sur Agaune Radio. C'est jeudi, on est de retour sur Agaune Radio avec nos invités pour parler d'un événement qui aura lieu dimanche à Lola de la Tuilerie, à savoir la présentation d'un diaporama sur le carnaval de Saint-Maurice, le tout orchestré par l'association Saint-Maurice d'Agaune. Et nous allons parler justement de cette association avec son président, Jean-Paul Duroux. Bonjour Jean-Paul Duroux.
Bonjour.
L'association Saint-Maurice d'Agaune, fondée en 1959, c'est bien juste ?
C'est ça.
Et puis des commandes pour votre part depuis 1996 ?
C'est exact.
Quel est son but ? Quelle est sa vie à cette association ?
Alors, cette association, elle a pour but, en fait, statutairement, hein, de contribuer à la sauvegarde du patrimoine historique, social, culturel de Saint-Maurice, et de mettre en valeur ce patrimoine. Ça, c'est un peu le but général. C'est une société qui est quand même composée d'environ 180 membres actuellement, qui sont très fidèles, qui nous sont fidèles depuis la reprise d'activité de 1996, parce qu'en fait, indépendamment de la partie administrative, qui généralement dure 20 minutes dans les assemblées générales, Jean-Pierre Coutat ou quelquefois Raymond Bergrand ont présenté une collection Saint-Maurice-hier et avant-hier qui en fait est une collection d'images sur une vingtaine de thèmes en commençant par l'œuvre Saint-Augustin qui fêtait ses 90 ans en 1996 qui a donc donné lieu à la première brochure et puis ensuite la gare CFF, le clocher de l'abbaye, les ponts de Saint-Maurice, la clinique Saint-Amé, l'église Saint-Sigismond, etc. Quoi, la percée de l'avenue d'Agaune. Donc ça nous a permis de regrouper des photos que les gens ne connaissent pas nécessairement, d'y adjoindre quelques petits textes, parce qu'il ne s'agit pas d'une collection historique au plan scientifique, mais ça a permis de regrouper des photographies et de distribuer ces photographies au travers de ces brochures à nos membres.
On peut dire donc que cette association, c'est un peu la mémoire vivante de Saint-Maurice.
Voilà, elle se veut un peu ça. Mais encore une fois, sans être... nous ne sommes pas des historiens, à part notre vice-président Raymond Bergeron, qui est historien, mais les 7 autres membres n'ont rien à voir avec l'histoire. Donc on essaye de la comprendre d'une autre manière.
D'accord. Jean-Pierre Coutat disait tout à l'heure qu'il fallait, qu'il avait été tapé aux portes hein, pour trouver des images du carnaval. Comment ça se passe à l'association ? Est-ce que vous êtes attentif à récupérer des fonds, à récupérer des photos ici et là ? Comment concrètement on fait pour pouvoir garder des traces de la vie agonoise ?
Alors, l'association elle-même, elle a quelques archives quand même qui ont été mises en carton, je dirais, par Raymond Bergrand, qui en était l'archiviste pendant de nombreuses années. Donc là, il y a un premier fonds, si on veut. Après, il y a notre ami Jean-Pierre qui a un fonds encore plus important de cartes postales et de vues de toutes sortes sur la commune de Saint-Maurice. Et au fur et à mesure de nos assemblées et de nos présentations, les gens apportent des photographies pour les faire scanner et les enregistrer dans nos collections. En particulier, pour le moment, dans la collection de Jean-Pierre, parce que c'est lui qui ordonne tout ça dans son ordinateur.
D'accord. Et si on trouve, par exemple, dans un galta ou une cave secrète, des boîtes avec plein de photos, donc on vient taper chez vous, vous vous occupez de...
Il ne faut pas taper.
Non,
il
alors...
Il ne faut pas taper, il faut offrir très gentiment.
D'accord.
Il faut d'abord m'offrir un verre de rosé, et puis après on m'invite, puis on me dit, viens voir fouiller. Alors là, c'est des instants de grand bonheur, mais ça n'est jamais arrivé.
Ça n'est jamais arrivé. Non. Donc, un appel est lancé à Agone Radio. Si vous avez des archives dans vos caves, invitez gentiment monsieur...
un verre de rosé.
Monsieur Jean-Pierre.
Mais c'est une maladie, la cartophilie. Parce que je me souviens, j'avais 18 ans, j'étais à Paris avec un oncle, et puis on déambulait le long de la Seine, et puis il y avait les bouquinistes. Et puis j'ai vu un type qui vendait une grande table comme celle-ci, et c'était rempli de cartes postales. Puis j'ai regardé, puis il y avait la France, la Turquie, le Venezuela, puis, la Suisse. Alors, j'ouvre au hasard, je tire une carte, le clocher de l'abbaye de Saint-Maurice, rose bonbon. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, c'est le clocher de l'abbaye, mais c'est pas notre abbaye. Alors bon, ça coûtait 2 francs français, ça voulait rien du tout. J'ai pris la carte, j'ai mis dans ma poche, on a été boire un verre. Et puis dans l'après-midi, quand on a eu bu, j'ai ressorti. Merde, pardon. Plus de carte, oublié la carte au bistrot. Mais cette carte, elle s'était gravée au laser dans mon ciboulot. Et je n'ai eu de cesse de la retrouver. Alors après, en Suisse romande, j'ai découvert qu'il y avait des bourses aux cartes postales, etc. Je les ai toutes faites. J'étais malade si je ne pouvais pas aller à la brocante de Martigny et arriver à 8h32 à l'ouverture. J'avais tellement peur qu'on me pique mes cartes. Parce que j'avais rien sur Saint-Maurice. Alors j'ai commencé comme ça à collectionner des cartes. Et puis petit à petit, ça s'est étoffé. Puis maintenant, on trouve sur Internet, il y a des sites qui nous permettent de trouver des choses. Et c'est ainsi qu'il y a des plaquettes très originales, me semble-t-il, qui sont nées parce qu'un jour, j'ai trouvé sur un site... Une photo, c'est pas une carte postale, c'est encore mieux les photos, où il y avait une grande cheminée, il y avait marqué « Hôtel de la Dent du Midi », puis il y avait un wagon de chemin de fer à côté. J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et à partir d'une photo, j'ai fait la chasse aux sorcières, j'ai remonté la filière pour trouver le nom du photographe, la date, qui c'était, quand, quoi et comment, et la découverte d'un document m'a permis de créer une plaquette.
Et c'est ainsi qu'on refait l'histoire.
Mais c'est ainsi qu'on refait l'histoire.
Exactement.
Travail de police.
Oui, mais c'est vrai.
C'est l'enquête de police. Il y a de ça.
Il y a un petit côté... Ouais. Oui, c'est vrai.
Et du coup, aujourd'hui, Jean-Paul Duroux, c'est quoi vos envies dans cette association ? Est-ce qu'il y a des projets qui se dessinent particuliers ? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur ?
Alors non, on ne peut pas dire qu'on a des projets particuliers. En fait, chaque année, on offrait donc la possibilité à nos membres de visionner un de ces diaporamas qui se terminait par une plaquette. À part ça, on offrait la possibilité de faire une journée culturelle en Suisse romande ou en France proche pour aller visiter un château, un ensemble historique. Ça, on l'a fait pendant une vingtaine d'années et je ne sais pas si on va la continuer. Et on offrait aussi la possibilité en automne de faire une espèce de causerie sur un sujet qui touche Saint-Maurice au plan historique. Alors voilà, ça c'était un peu le programme de notre association, donc ça déborde pas, mais enfin, ça nous a permis quand même de survivre pendant 25 ans, quoi. Mmh. C'est vrai que c'est très difficile à proposer des activités particulières qui sont vraiment originales à nos membres, qui ont une moyenne d'âge quand même plutôt élevée. Cela dit, évidemment, que je lance un appel aux gens qui s'intéresseraient à entrer dans le comité, parce on commence tous à avoir un âge vénérable en nombre d'années de comité, et il faudrait effectivement de nouvelles forces pour peut-être amener de nouvelles idées.
Mmh. Pour dimanche, il faut être membre pour venir ?
Non.
C'est ouvert à tout le monde.
C'est
ouvert à tout le monde, mais il y a 190 places, je crois, dans l'aula de la Tuilerie. On craint que pour ce sujet-là, il y ait un peu trop de monde. Et ça, on ne pourra pas faire autrement que d'accueillir les premiers venus seront les premiers servis, quoi.
Les jolies filles, je les accueille sur mes genoux.
D'accord.
Et pour devenir membre, il faut quoi ?
On peut être jolie fille.
C'est extrêmement simple. Il faut adhérer en signant éventuellement un bulletin d'adhésion. Et c'est même pas absolument indispensable. Mais surtout de payer 30 francs par année de cotisation. Puis à partir de là, vous êtes membre. Et ça suffit.
D'accord. Et on rappelle donc que l'actualité de l'association, c'est ce dimanche.
Oui.
17h à l'aula de la Saint-Maurice, entrée libre, pas besoin d'être membre pour tout savoir sur le carnaval agonois, avec Jean-Pierre Couta qui nous présentera un diaporama accompagné de Pierre-André Antamaten et Pierre-Benoît Vetet, et que ce diaporama, c'est le début d'une plaquette en fait, mais qui sortira un peu plus tard, c'est bien
à la fin de l'année.
À la fin de l'année. Donc, à Noël, on pourra commencer à se réjouir de carnaval grâce à la plaquette de l'association Saint-Maurice d'Agone. Merci beaucoup d'être venu nous trouver.
Merci à vous.
Merci.
On se réjouit de découvrir tout ça dimanche. Et quant à nous, on se rejoint dans un petit moment avec Yasmina Cordonnier pour parler de littérature. À tout à l'heure.
John Foss pour le Nobel de littérature aujourd'hui et Yasmina Cordonnier pour l'émission Miroir de page. Bonsoir Yasmina.
Bonsoir Victor.
Émission de la rentrée, un premier livre sur des secrets de famille. On avait déjà eu des livres sur des secrets de famille.
C'est un sujet assez présent dans la littérature.
Avec Les parts oubliées de Chairman Wickerson, traduit de l'anglais par Cécile Chartres aux éditions Chastel.
Alors pour cette première émission de la rentrée, j'ai choisi un livre d'une prima romancière. En cette période de rentrée littéraire où les sélections pour les prix ont déjà commencé et où les tables des librairies sont bondées de noms connus, il est important de donner de la visibilité à la relève. Et en plus, je crois vraiment en ce livre.
Prima romancière, ça veut dire
Premier roman. Alors, Byron et Benny sont réunis dans la maison familiale pour entendre les dernières volontés de leur mère. Rien ne les avait préparés à la confession de cette dernière, qui leur livre à travers un enregistrement l'histoire de sa famille. Ils prennent alors conscience de tous les secrets qui entourent leur famille. Il faut dire que dès le début, les retrouvailles sont un peu tendues. Byron est un océanographe reconnu, souvent invité sur les plateaux de télé. Il s'investit auprès de jeunes et il se veut un modèle en tant que minorité qui a réussi. Et il sait qu'il doit cela notamment à ses parents, dont il est très proche et qu'il n'a jamais voulu décevoir.
Le fils parfait,
qui ne s'en rend pas compte. Benny, elle, a fait des choix de vie qui ne correspondaient pas aux attentes de ses parents. Et le contact, malgré tout l'amour qu'elle leur porte, a été coupé. Le récit de leur mère, au-delà du choc qu'il engendre, va leur permettre de revisiter leur vie, de mieux comprendre leur parcours et surtout de renouer.
Donc on a le thème du secret de famille, puis il y a aussi le thème du voyage. On le retrouve aussi souvent dans ces romans. On voyage dans le temps et on voyage au niveau géographique.
Oui, les chapitres de ce roman alternent entre passé et présent et nous entraînent de l'Amérique aux Royaumes-Unis en passant par l'Italie et les Caraïbes. Et c'est justement dans les Caraïbes que l'histoire débute. Nous rencontrons Covey, une jeune fille intrépide qui défie les vagues avec sa meilleure amie. Sa mère est partie en promettant de revenir la chercher, mais le temps passe et justement rien ne se passe. Elle vit donc avec son père, venu de Chine, à la recherche d'un meilleur avenir comme bon nombre de ses compatriotes. Mais ce dernier trempe dans des affaires louches. Il joue, organise des combats de coqs, perd beaucoup, souvent, et doit de l'argent à une famille de Lille peu recommandable. Covey en fera les frais et sa vie sera jamais chamboulée. Elle devra, afin de survivre, se réinventer sans cesse. Bien sûr que plus on avance, plus on comprend que les destins des protagonistes sont liés. Et il y a aussi un personnage, qui n'en est pas vraiment un, qui tient une place importante. En fait, il relie toutes les histoires, toutes les figures qui peuplent ce livre. Le gâteau noir.
Le gâteau noir, donc en fait, c'est le titre original de l'ouvrage en anglais. Black Cake, c'est ça?
Oui.
Un vrai gâteau.
Un vrai gâteau, il vient...
Au chocolat.
Ah ah, non, pas vraiment. Il vient des Caraïbes et plus précisément de l'île de Trinidad. Alors, je vous le présente. Ce gâteau est constitué de deux préparations de pâtes bien distinctes que l'on travaille séparément, longuement, avant de les réunir. On y ajoute du sucre de canne et, l'ingrédient primordial, des fruits macérés dans du rhum. Mais attention, hein, on ne fait pas tremper la veille, non, on les laisse s'imprégner bien à l'avance, parfois même une année. On le sert lors d'occasions spéciales et il se conserve, vu la quantité d'alcool, très longtemps.
Ça me rappelle le pain atomique à l'armée, où il y avait justement des fruits qui étaient, alors pas imbibés d'alcool, mais enfin, je vois très bien ce que c'est.
Oui, ça doit être assez consistant. Hein.
Exactement, voilà. C'était le propre du cake noir, du cake de l'armée.
Alors, c'est le gâteau que mangeront Byron et Benny lorsqu'ils auront écouté jusqu'au bout le message de leur mère et réalisé ses dernières volontés. C'est un gâteau qui se transmet de génération en génération. Benny a appris à le faire avec sa mère et elle le fera souvent, une fois partie de la maison, pour se sentir, malgré les dissensions, en communion avec sa famille. C'est aussi ce gâteau qui changera à tout jamais la vie de Covey. En fait, il est le souvenir des parts qu'il a fallu laisser derrière soi pour avancer. Il cristallise tous les thèmes abordés dans ce roman que je vous laisse découvrir. Les parts oubliées est une œuvre très romanesque, pleine de rebondissements, très rythmée, avec des chapitres très courts qui explorent toutes les répercussions des secrets de famille. C'est un livre qui reste profondément optimiste malgré parfois le destin tragique de nos héros, et qui donne vraiment envie de croire aux secondes chances.
Ce gâteau noir, c'est une vraie recette ou c'est une recette qui était pour cette famille?
Malheureusement, elle ne met pas la recette dans le livre, mais j'ai été regarder et effectivement, ce gâteau noir existe bien.
Alors intéressant, bon, si vous regardez, si vous êtes intéressé par un espèce de pain atomique militaire, hein, on pourra regarder sur Internet. Deuxième ouvrage, Moyen-Âge, Croix de Centre, d'Antoine Sénan, qui aux éditions Grasset, nous amène au 14e siècle, Toulouse, qui est une région quand même proche de l'Espagne. Enfin, on voit arriver un petit peu l'influence.
Voilà, alors exactement, et on est dans une période où l'Europe se remet à peine de la peste noire. Les temps sont troubles, il faut faire attention aux discours que l'on propage, car les hérésies foisonnent et l'on peut très vite avoir affaire à l'Inquisition, très active, qui veille à la stricte obédience de la doctrine de l'Église. Alors, afin de combattre ces hérésies et de réhabiliter l'Église, de nouveaux ordres mendiants ont vu le jour un siècle plus tôt. Les franciscains, fondés par saint François d'Assise, alors, ils se tiennent généralement à l'écart des centres urbains et prônent, dans un dénuement total, l'amour de toute chose. Ils se méfient du savoir et des livres qui mènent, selon eux, à l'orgueil et à l'envie de pouvoir. Et nous avons les dominicains, très actifs dans les villes, qui se basent sur le savoir, l'intelligence de toute chose, pour rendre plus efficace la prédication. Cet ordre d'ailleurs formera de grands docteurs en théologie et de nombreux inquisiteurs. Comme le dira un des protagonistes de ce roman, les franciscains font pitié, les dominicains peur. Malgré leur but commun, ils sont en rivalité et cela sera présent tout au long du récit. C'est dans ce contexte que deux jeunes moines dominicains sont chargés par le prieur Guillaume, qui arrive au terme de sa vie, d'aller chercher des parchemins et des encres qui serviront à recueillir ses souvenirs. Si la mission leur semble dans un premier temps simple, ils vont vite s'apercevoir que celle-ci est bien plus périlleuse qu'elle n'y paraît et que le grand inquisiteur est prêt à tout pour que ce projet ne voie jamais le jour. Car ce dernier recèle des secrets dangereux pour certaines personnes haut placées et pour l'Église.
Encore des secrets ?
Encore des secrets.
Et aussi un voyage.
Et aussi des voyages. Parce qu'à travers les souvenirs de Guillaume, retranscrits par le jeune moine Antonin, et cela en dépit des menaces qui pèsent sur leur personne, nous voyageons jusqu'en Orient, auprès des croisés assiégés par les Tatars, nous découvrons Maître Eckhart, grande figure mystique, qui eut d'ailleurs plusieurs démêlés avec l'Inquisition, dont Guillaume fut l'assistant durant de nombreuses années à la Sorbonne. Figure qui a bien sûr existé, mais avec laquelle l'auteur prend quelques libertés, puisque nous sommes dans un roman. Nous les suivons dans leurs périples et leurs visites dans les béguinages, qui tiennent une place importante dans le secret qui pèse sur les épaules du prieur.
Qui étaient ces béguines ?
Alors, les béguines étaient des femmes qui n'acceptaient pas ou plus, car il y avait des veuves, le mariage, mais elles ne voulaient pas forcément être cloîtrées. Elles ne renonçaient pas à leur mode de vie laïque, mais ne prononçaient pas de vœux. Elles savaient lire, écrire, elles s'appropriaient les textes sacrés qu'elles traduisaient en langue vulgaire et se penchaient sur les subtilités théologiques jusque-là réservées aux clercs. Bien sûr que tout cela les rendait suspectes aux yeux de l'Église. Certaines furent brûlées, car jugées coupables d'hérésie.
Elles vivaient en communauté ?
Alors, elles vivaient principalement en communauté. Il y avait des béguines ermites, et certaines étaient riches, donc elles vivaient de leur pécule. D'autres travaillaient, donc dans les hôpitaux et dans les draperies qui commençaient à éclore et qui étaient assez florissantes en cette période, parce que c'était surtout en Flandre et en Allemagne, en fait.
Donc, pas forcément dans notre région ?
Pas forcément dans notre région, non. J'ai pas connaissance de béguinage ici.
Croix de Sande, c'est un roman historique, on l'a dit ?
C'est un roman, oui.
Mais romancé quand même.
Romancé, tout à fait. Mais il est tout à la fois historique et puis l'atmosphère est vraiment prenante. Mais c'est aussi un roman d'aventure, un roman policier, teinté de spiritualité. C'est un livre d'amitié, de fraternité, de loyauté. C'est un livre foisonnant qui suscite l'envie d'approfondir les thématiques abordées. Alors, j'ai pour ma part été sur YouTube pour écouter des conférences sur Maître Eckhart. Et j'ai eu une pensée pour le prieur qui disait d'ailleurs que l'enseignement de Maître Eckhart donnait des migraines. Je me suis retrouvée avec cette sensation de tout comprendre, comme si quelque chose s'ouvrait. Et au moment d'ordonner le discours pour le mémoriser, j'ai compris que je n'avais rien compris.
C'est un livre qui fait combien de pages ?
C'est un livre, celui-là, qui fait environ 300 pages.
Facile à lire ?
Très facile à lire.
D'une traite ?
D'une traite.
Donc cet aspect aventure, intrigue,
aventure, Moyen-Âge. Bon, après, il faut aimer le Moyen-Âge. Moi, je suis une passionnée du Moyen-Âge. Je trouve qu'il y a des similitudes avec notre période qui sont assez flagrantes.
À découvrir donc à la librairie Saint-Augustin.
Avec plaisir.
Et puis si vous avez des explications plus, vous pouvez demander à Yasmina. Merci beaucoup Yasmina.
Merci beaucoup Victor.
On se voit dans 2 semaines.
Avec plaisir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Et merci beaucoup Victor, puisque notre émission touche bientôt à sa fin. On remercie vous de nous avoir écoutés de l'autre côté du micro d'Agone Radio. Merci aussi à nos invités du jour, Jean-Paul Duroux, Jean-Pierre Couta pour l'association Saint-Maurice d'Agone, Yasmina Cordonnier pour ce chouette moment littéraire. Rendez-vous la prochaine fois le jeudi 12 octobre pour un nouveau numéro du Jeudredi dans lequel nous vous parlerons notamment des défis des chalets, le Trail d'Agone, qui se déroulera le dimanche 15 octobre. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et une bonne suite de Jeudredi soir. À bientôt sur Agone Radio.